Et à 6h40 sur France Culture, on retrouve Jacques Munier. Bonjour Jacques.
Bonjour Anne-Laure Chouin.
Ce matin, dans votre journal des idées, le genre des mots, au-delà de leur sens propre, les mots reflètent des représentations, ils sont chargés d'histoire. En analyser les usages et les effets permet donc d'esquisser des physionomies sociales.
Oui, dans les pages idées de Libération, Alex Albert interroge l'usage du tutoiement qui se répand dans les entreprises. Près des deux tiers des salariés dans le privé tutoient leur supérieur hiérarchique direct, selon une enquête de 2006. Plus égalitaire, plus moderne, plus simple, le tutoiement n'a apparemment que des avantages, écrit-il, face à un vouvoiement qui semble de plus en plus guindé, formel, distant, un héritage d'anciens régimes qui sépare les conditions sociales, une frontière linguistique qui souligne autant qu'elle produit les inégalités statutaires. On devrait donc y voir le signe d'une modernisation des organisations productives. Les entreprises seraient-elles devenues plus égalitaires ? À regarder de près, rien n'est moins sûr. Pour le sociologue, le tutoiement est porteur de logiques managériales qui le rendent très ambigu. L'enquête révèle notamment qu'il va de pair avec l'introduction de nouvelles méthodes de travail, là où le contrôle est plus distant, où les salariés sont libres d'organiser leur activité, de proposer des améliorations, etc. Mais c'est là aussi que les objectifs chiffrés et les parts salariales variables sont les plus répandus. Autant de méthodes qui responsabilisent les salariés en individualisant leurs conditions d'emploi, quitte à faire peser sur eux une pression accrue. Le tutoiement viendrait ainsi euphémiser les rapports de pouvoir. Sous le règne du néo-management, ce sont les normes, les procédures, les chiffres, les tableaux de bord et autres reporting qui exercent le contrôle effectif du travail. Par ailleurs, les femmes ont moins tendance à tutoyer leur chef, 49% seulement contre 71% pour les hommes, un écart significatif qui s'explique du fait que les femmes ont souvent des chefs hommes et qu'elles évitent par prudence un registre trop familier avec eux. Christine Barr et Frédéric Lenan publient un ouvrage collectif sous le titre « Dire le genre » à CNRS Édition. Elle relève la part de l'histoire dans la domination du masculin. Le neutre a longuement existé en français. Il est issu d'un latin tardif et parlé. Au pluriel, sa principale désinence était en « a ». En témoigne par exemple l'évolution d'un mot comme « folium » donnant « folia » au pluriel, puis « feuille ». Le suffixe « a » étant identifié comme féminin, s'est transformé en « e », devenu muet. Résultat, le féminin ne s'entend plus. De même, l'accord pluriel au masculin, selon le principe, le masculin, le fameux principe, le masculin l'emporte sur le féminin, n'a pas toujours prévalu. Au Moyen-Âge, cet accord est dit de proximité, au plus près du mot auquel un adjectif ou un participe se rapporte. Le genre est devenu, sous l'Ancien Régime, et la volonté farouche d'auteurs comme Malherbe ou Vaugelas, une grammaire exclusive. Écrivaine ou autrice existaient respectivement au XIVe et au XVIe siècle. Aujourd'hui, l'écriture inclusive s'emploie à démentir cette évolution, mais elle reste improbable à l'oral. Une curiosité, l'usage espagnol de l'arrobase pour terminaison au pluriel en guise de réconciliation de la différence des genres, et là aussi, ça reste cantonné à l'écrit. Les auteurs ou autrices évoquent la féminisation des noms de métiers qui progressent au milieu des représentations sexistes, lesquels continuent pourtant de s'exprimer dans les récits biographiques recueillis par la sociologue Marie-Laure Deroff. Observe que les hommes ont davantage tendance à produire des récits carrés, exprimant une forme de cohérence et de maîtrise où le passé est au service d'un présent postulé comme aboutissement d'une chronologie. Quand les femmes, plus impliquées dans le quotidien, ont une lecture synchronique de leur identité narrative et surtout, elles sont plus enclines à révéler l'intimité de leur vie sexuelle, conséquence d'une connivence clanique, d'une culture de la confidence, résultant des discussions nourries entre adolescentes. Quelle différence y a-t-il entre un galant homme et une femme galante? Je vous laisse deviner. Alain Viala met à l'épreuve de ces différences de genre un mythe constitutif de notre identité française, la galanterie, dans un livre publié sous ce titre au Seuil. Lesté aujourd'hui d'enjeux sociaux et politiques, la civilité, la morale amoureuse, la condition féminine, elle a été un modèle culturel majeur des 17e et XVIIIe siècle, un temps éclipsé par les tricoteuses des assemblées révolutionnaires, la notion revient en force dans la littérature et les arts. Watteau et l'école galante, où le mot penche davantage vers le libertinage que vers les qualités de prévenance, c'est toute une histoire sociale et culturelle qui est contenue dans ce mot. Ernst Cassirer estimait que les mots sont des gestes fossiles, et notamment le premier d'entre eux, le geste déictique, qui désigne l'objet référent, ça c'est une chose, un arbre, une fleur.